Paul Marquis, bonjour.
Oui, bonjour.
Prévisionniste indépendant pour e-météo service. Il n'y a plus de météo.
Oui,
c'est un peu ce qu'on dit à chaque fois, il n'y a plus de météo. En ce moment, j'arrête pas d'entendre dire, mais qu'est-ce qui pleut?
Oui, il n'y a plus de saison plutôt. Pour être exact, effectivement, on vit un mois de mars extrêmement pluvieux, avec des records de pluie dans les Bouches-du-Rhône ou le Var. Alors, dans les Alpes du Sud, ce n'est pas forcément le cas.
Ce n'est pas le cas. Pourtant, il pleut pas mal. Hein.
Oui, mais c'est vrai qu'en fait, c'est des flux du Sud. Du coup, ça remonte de la Méditerranée. Donc, ça a tendance à s'assécher en arrivant dans les Alpes du Sud. C'est plutôt des flux d'ouest à nord-ouest pour avoir des records de pluie ici. Donc, c'est quand même des cumuls qui sont importants. On a sur Gap et Embrun plus de 150 mm de pluie depuis le 1er mars. Donc, c'est quand même deux fois la moyenne. Donc, c'est quand même pas mal d'avoir deux fois un mois de mars en seulement trois semaines. Mais néanmoins, ce n'est pas forcément si hors norme que ça dans nos territoires, en fait.
Ouais. C'est plutôt une bonne nouvelle, finalement, que les précipitations soient en excédentaire, puisqu'on a vu il y a quelques semaines en arrière un feu de sécheresse se déclarer d'ores et déjà dans les Alpes d'Haute-Provence. Il fallait renouveler un petit peu et réhydrater un peu les sols.
Ah oui, c'est vrai qu'on a vécu un hiver quand même parfois un peu sec. C'est vrai, entre les Alpes de Provence et les Hautes-Alpes, notamment entre janvier et février, on n'a pas eu beaucoup de neige au début de l'hiver. Même au milieu de l'hiver, c'était assez sec et l'enneigement n'était pas très très bon. On s'est rattrapé en mars. Paradoxalement, la semaine la plus neigeuse de l'hiver a été celle du 10 au 17 mars de mémoire. Donc c'est tard dans la saison, mais néanmoins c'est une bonne nouvelle puisqu'on aura de l'eau pour l'été. Donc là, le lac de Saint-Ponçon sera normalement plein. Et ça fait aussi des réserves d'eau pour la nature et la faune et la flore qui vont se régaler de toute cette pluie qui tombe.
Donc je vous repose quand même cette première question. Il n'y a plus de saison au final. Ce que vous nous dites, c'est si, ce sont toujours des saisons qui sont normales ou quand même il y a un impact du réchauffement climatique qui commence à se faire ressentir?
Alors on a comme toujours des saisons dans la région. Néanmoins, le changement climatique est une réalité. Puisqu'aujourd'hui, on voit qu'on a des hivers parfois secs, notamment janvier, février. Le mois de février, parfois, est un mois plus printanier qu'hivernal. Souvent, l'hiver revient en mars. Le printemps a du mal à s'installer, donc on a souvent des orages, un temps un petit peu instable entre mars-avril. Donc oui, les saisons sont toujours là, néanmoins elles sont plus comme avant. On a effectivement un hiver qui se raccourcit, un printemps qui est de plus en plus instable, et des étés qui sont de plus en plus chauds. Donc voilà, les saisons existent toujours, mais elles se modifient d'année en année en fait.
En fait, finalement, l'instabilité du réchauffement climatique, on ne peut pas vraiment en parler d'instabilité, c'est juste qu'on va changer véritablement de typographie et de visage dans les saisons.
Bien sûr, effectivement, en fait, le climat des Alpes du Sud, c'est un climat semi-montagnard et semi-méditerranéen. Donc c'est vrai qu'on voit que l'influence de la Méditerranée est de plus en plus présente dans nos départements. On a des températures qui peuvent maintenant atteindre 40 degrés l'été à Gap, ce qui n'était pas possible il y a encore une dizaine d'années. Donc on voit que la chaleur gagne du terrain, la neige remonte de plus en plus haut en altitude. Donc voilà, on voit que ces phénomènes sont réels, ils sont rapides. Donc c'est vrai qu'à l'échelle d'une vie humaine, c'est assez court. Pourtant, à l'échelle de la Terre, c'est quand même une petite goutte d'eau dans un océan, quoi.
Il y a eu cette étude de l'INSEE qui disait très concrètement dans les années à venir, il fera de plus en plus chaud, notamment dans les Alpes d'Haute-Provence, mais dans les Hautes-Alpes, on sera moins impacté.
Alors, je n'ai pas forcément vu cette étude. Après, effectivement, logiquement, les Alpes de Provence sont plus au sud que les Hautes-Alpes. Donc, effectivement, il fait plus chaud en moyenne du côté de Castellane, Valenciennes ou Manosque, ça c'est une réalité. Néanmoins, nos territoires se réchauffent deux fois plus vite qu'ailleurs en France. Donc, effectivement, ça c'est une réalité. On subit de plein fouet le changement climatique. Donc, on a des canicules qui sont de plus en plus intenses. Heureusement, la nuit, ça reste encore acceptable par rapport aux Bouches-du-Rhône ou au Var, où là, la nuit, c'est tropical. Donc, on a encore préservé la nuit de la chaleur. Néanmoins, la journée fait de plus en plus chaud. Et voilà, l'automne, on a quand même ces vagues orageuses de plus en plus fréquentes et intenses entre Manosque, Gap et jusqu'à Briançon.
Est-ce qu'on vous sollicite en tant que prévisionniste indépendant, notamment pour les Jeux Olympiques 2030? Je suppose que bien évidemment, vous ne pouvez pas avoir des prévisions aussi loin, mais est-ce qu'en tout cas, c'est un dossier sur lequel on vous a déjà amené à vous prononcer?
Alors non, parce que pour l'instant, c'est quand même tout récent. Officiellement, on a du coup nos JO dans les Alpes du Sud depuis seulement, je crois, quelques mois. Donc pour l'instant, c'est tout neuf. On parle beaucoup des transports, d'accessibilité aux JO. Donc pour l'instant, je ne suis pas sur le dossier, puisque c'est sans doute Météo France qui aura le dossier. Ils ont une branche sport. Donc logiquement, ce sera eux qui auront les principaux marchés. Après, moi, je ne suis pas fermé à grappiller de deux ou trois contrats pour des compétitions, peut-être pas forcément dans nos territoires. Mais voilà, je ne suis pas fermé à recevoir des offres, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. C'est trop tôt.
Les prévisionnistes, justement, dans de tels événements sportifs internationaux qui sont en lien, bien évidemment, avec la météo, ils ont quel rôle à jouer?
Alors en fait, ils ont un rôle important parce que les compétitions, notamment de ski, peuvent parfois ne pas se dérouler à cause du vent. Quand il y a trop de vent, c'est dangereux, donc il n'y a pas de compétition de ski. Pareil, si l'enneigement n'est pas suffisant, il y aura aussi des problèmes pour le déroulement des compétitions. Donc c'est important d'avoir une bonne visibilité, au moins J+3, J+4, pour anticiper les compétitions de ski, le vent, l'isothermie, ainsi que l'altitude de la neige. Donc, ça, c'est des critères qui sont très importants pour du coup, les compétitions de sport partout en France.
Le sable du Sahara a fait son retour il y a quelques jours. Est-ce que c'est un phénomène qui est normal aujourd'hui ?
Alors, normal, non, parce qu'effectivement, à l'époque, il y a encore 20 ans, on avait se remonté environ 2 à 3 fois par an. Aujourd'hui, c'est de plus en plus fréquent. On en a quasiment une dizaine l'année dernière, une quinzaine il y a 2 ans. Donc, on voit que ces flux de sud sont de plus en plus fréquents. Maintenant, dès qu'on a un flux de sud dans de la chaleur, un ciel voilé souvent par les poussières du Sahara. Et malheureusement, ça vient pourrir le manteau neigeux. Et ça vient aussi créer une pollution aux particules fines dans nos territoires.
Une pollution aux particules fines. Vous parliez du manteau neigeux, justement. Est-ce que ça a aussi un impact dans sa tenue ou non ?
Totalement. Effectivement, il y a des études qui sont sorties de par Météo France, notamment des nivologues qui ont prouvé qu'un manteau qui était pourri, entre guillemets, par le sable du Sahara allait fondre jusqu'à 3 semaines plus vite qu'un manteau neigeux en fait, sain. Donc oui, c'est un impact sur la tenue de la neige qui est moins bonne. On a aussi un risque d'avalanche qui est plus élevé quand le manteau a été atteint par le sable du Sahara. Et effectivement, pour les personnes qui sont fragiles ou allergiques, ça peut créer des épisodes de pollution et donc de crise d'asthme pour ces personnes-là.
Est-ce que vous pourriez expliquer ce phénomène de sable du Sahara ? C'est dû à quoi ?
Alors en fait, ça s'explique par plusieurs phénomènes. C'est quand une dépression vient passer au large du Portugal ou du Maghreb. Donc, sa dépression, souvent, va filer vers le nord. Donc, elle va créer un flux de sud. Donc, les poussières vont s'envoler du Sahara, vont traverser la Méditerranée et poussées par le Sirocco, qui est un vent sud-sud-est, vont arriver jusqu'en France et parfois même traverser une partie de l'Europe pour arriver jusqu'en Norvège. Donc, ces particules, elles sont plus ou moins denses, plus ou moins épaisses. Mais effectivement, suivant les quantités qu'il peut y avoir, on a un ciel qui peut devenir carrément jaunâtre, voire même orangé. On a pu avoir ce phénomène-là il y a encore 2-3 ans, c'est très impressionnant. Et effectivement, ça se dépose partout. Et quand il pleut, on en a partout sur les véhicules, les terrasses. Donc, c'est un phénomène qui n'est que bon pour les végétaux qui se nourrissent des minéraux qui sont dans les poussières du Sahara, en fait.
Quand on parlait du réchauffement climatique, il y avait cet objectif qui était fixé de ne pas atteindre les 1,5 degré de réchauffement climatique. Cet objectif n'a pas été respecté, cet objectif de l'accord de Paris. Ce n'est plus une hypothèse, c'est une réalité. Pour autant, il va y avoir cette COP30 qui sera prévue du 10 au 21 novembre prochain à Belém, c'est au Brésil. Qu'est-ce qu'on peut attendre ou ne pas attendre de ce type je vous vois déjà sourire, donc c'est plutôt ne pas attendre de ce type de rendez-vous aujourd'hui.
Ah oui, c'est vrai que moi, personnellement, j'y croyais à cette COP quand ça a commencé, il y a maintenant effectivement 30 ans. Aujourd'hui, on voit que c'est plus un rassemblement de politiques qui parlent beaucoup mais qui n'agissent que peu, malheureusement. Donc, on a eu des objectifs qui ont été fixés, qui n'ont pas été atteints. Malheureusement, ces COP ne sont pas assez contraignantes. C'est des accords qui sont seulement, on va dire...
Volontaires,
voire même optionnels. Donc, on voit qu'aujourd'hui, voilà, ça ne sert plus à grand-chose. On voit que le réchauffement climatique est une réalité et maintenant est indéniable. Aujourd'hui, on a un rapport de Météo France qui est sorti il y a encore 2 jours qui montrait qu'on aurait minimum plus 4 degrés à la fin du siècle. Donc, ça, c'est une réalité. On ne peut plus l'inverser. Donc c'est vrai qu'à part arrondir les angles ou donner les bonnes mesures pour la population, je ne vois pas trop en quoi ces COP pourraient servir à l'avenir. Quoi. Malheureusement, je ne suis pas optimiste sur ce sujet.
Merci beaucoup, Paul Marquis, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, prévisionniste indépendant pour Météo Service. Merci à vous.
Merci, bonne journée.